Il est 22h à Gaza, 21h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, un accord historique, une trêve à Gaza entre Israël et le Hamas. Elle entrera en vigueur dimanche, affirme le Qatar ce soir. Nous rejoindrons le correspondant régional de RFI dans un instant. En Corée du Sud, que va-t-il se passer pour Yoon Suk-yeol? Le président déchu passe sa première nuit en détention après son arrestation hier, plus d'un mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Au sommaire aussi, Los Angeles continue de brûler et au moins 250 milliards de dollars de dégâts. Les incendies qui ravagent la deuxième ville des États-Unis pourraient être les plus coûteux de l'histoire. Et puis les partenaires sociaux invités à la table des négociations sur les retraites en France, promesse formulée hier par François Bayrou, le Premier ministre. Qu'en pensent les syndicats? Éléments de réponse dans ce journal. 15 mois après le début de la guerre, scène de liesse dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens expriment leur joie ce soir depuis l'annonce d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas qui prévoit la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Accord qui entrera en vigueur dimanche, confirmé par le Qatar, le Hamas et l'État hébreu qui affirme tout de même que des questions restent à régler. Bonsoir Joseph Clément.
Bonsoir.
Correspondant régional de RFI, c'est à Doha qu'ont eu lieu les négociations ces dernières semaines, négociations qui se sont intensifiées ces derniers jours.
Oui, et puis ça commence vraiment finalement à ressembler à un accord, hein, puisque c'est le Premier ministre qatari qui s'est chargé de faire l'annonce il y a un petit peu plus d'une heure à Doha. Mohamed Ben Abderrahman Al Thani a confirmé le cessez-le-feu de 42 jours qui doit entrer en vigueur ce dimanche, avec pour première phase la libération de 33 otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Cette phase comprend également, selon le Premier ministre, le retrait des troupes de l'État hébreu de certaines parties de la bande de Gaza et la garantie que l'aide humanitaire puisse y entrer. Afin de ne pas laisser tomber l'élan diplomatique, Al Thani veut croire que le cessez-le-feu se poursuivra avec une deuxième puis troisième phase de l'accord dont les détails sont encore en train d'être négociés. Un accord, selon le Premier ministre, qui doit amener à terme la paix durable dans la région. Deux sentiments se dégageaient de la conférence de presse donnée ce soir à Doha. D'un côté, il y a le soulagement qu'un accord puisse être scellé, enfin. Et puis de l'autre, il y a quand même la prudence, la très grande prudence, car cela ne sera qu'à partir de dimanche que l'on ne saura si oui ou non le cessez-le-feu entrera bel et bien en vigueur.
Merci beaucoup Joseph Clément. L'armée israélienne qui poursuit ses frappes en Syrie, notamment 3 personnes sont mortes aujourd'hui, dont un civil dans une localité de Gadir al-Bustan près du Golan occupé selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la première frappe visant des forces de sécurité des nouvelles autorités. Le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne annonce quant à lui la mort de 5 personnes à Jénine en Cisjordanie occupée. Notez aussi que les médias d'État égyptiens annoncent ce soir que des négociations sont en cours pour rouvrir le passage frontalier de Rafah entre l'Égypte et Gaza, fermé depuis le mois de mai. Objectif, permettre de faire entrer de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Des conflits armés, des tensions économiques, sujets qui seront au cœur des discussions lors du Forum économique mondial de Davos, dont le coup d'envoi sera donné lundi prochain, le 20 janvier. Dans une enquête menée par le Forum, un quart des 11 000 dirigeants d'entreprises originaires des 121 pays interrogés ont placé le risque de conflit à la première place des dangers à horizon de 2 ans. Les conflits mondiaux, principale préoccupation des patrons, alors que la Russie a lancé aujourd'hui une nouvelle attaque massive contre le réseau énergétique ukrainien. Près de 120 missiles et drones. Au même moment, Volodymyr Zelensky était en Pologne, qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Son Premier ministre a d'ailleurs assuré qu'il contribuerait à accélérer l'adhésion de Kiev à l'Union européenne. De son côté, le président ukrainien exhorte ses alliés à dépenser les 250 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour lui fournir des armes. Retranché pendant des semaines chez lui, Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen déchu, est actuellement en garde à vue et passe la nuit dans un centre de détention. Cette nuit, enquêteurs et policiers sont venus le chercher dans sa résidence. Plus d'un mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, il doit maintenant répondre à leurs questions. Sauf qu'il se mure dans le silence, Nicolas Roca.
Aucune déclaration, pas un mot aux enquêteurs. Même en détention, Yoon Suk-yeol garde son cap, une ligne qu'il a défendue dans une courte allocution diffusée avant son arrestation.
Aujourd'hui, après avoir vu des individus envahir la zone de sécurité à l'aide de matériel des services d'urgence, j'ai décidé d'accéder à la demande de comparution volontaire du bureau d'enquête sur la corruption, même s'il s'agit d'une enquête illégale, afin d'éviter tout incident violent ou effusion de sang malheureuse.
La loi martiale n'est pas un crime, a-t-il renchéri dans une publication Facebook. Accusé de rébellion, Yoon Suk-yeol doit être interrogé durant au moins 48 heures, un délai qui expire ce vendredi. Ensuite, les enquêteurs peuvent soit le relâcher, soit demander un nouveau mandat d'arrêt autorisant sa détention jusqu'à 20 jours. En plus de cette procédure pour rébellion, un chef d'accusation pour lequel il risque en théorie la peine de mort, Yoon Suk-yeol est aussi appelé à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci doit étudier la légalité de la procédure en destitution pour la rendre définitive ou bien pour le rétablir à son poste. La réponse des juges est attendue d'ici le mois de juin. Mais face à cette instance, le président déchu applique la même stratégie. Il a déjà annoncé qu'il ne se rendrait pas aux audiences. La prochaine a lieu ce jeudi.
Et la procédure continuera même en son absence. Plus d'une semaine maintenant après le début des incendies qui ravagent Los Angeles, les prévisionnistes alertent. Le vent va encore se renforcer avec des rafales jusqu'à 110 km/h qui devraient compliquer le travail des pompiers. Le bilan, lui, s'est encore alourdi. 25 morts, 88 000 déplacés et ces feux pourraient devenir les plus coûteux jamais enregistrés. Entre 250 et 275 milliards de dollars de dégâts, c'est plus qu'après le passage de l'ouragan Katrina en 2005, Agnieszka Kumor.
L'agence privée américaine de prévision météo, AccuWeather, estime que les dommages et les pertes économiques provoquées par les incendies à Los Angeles se situent désormais entre 250 et 275 milliards de dollars. Parmi les coûts directs figurent le nettoyage, l'hébergement d'urgence et la reconstruction. Ajoutez à cela les coûts indirects tels que les soins de santé, la perte de salaire ou d'activité, les créations et l'accès à l'emploi ou les conséquences pour le tourisme, sans parler de traumatismes émotionnels ou physiques à long terme. Qui pour payer tout cela? Le gouvernement fédéral devrait couvrir 100% des coûts d'intervention et fournirait un chèque de 770 dollars pour chaque personne touchée. Le reste de la facture pourrait être partagé entre gouvernements locaux, compagnies d'assurance et résidents. Le Congrès n'est pas encore parvenu à un accord sur un plan d'aide et on ne sait toujours pas ce que décidera Donald Trump une fois arrivé à la Maison Blanche.
Agnieszka Kumor. Ni la France ni l'Algérie n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre elles. La déclaration aujourd'hui de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, interrogé à l'Assemblée, a réaffirmé qu'il était prêt à se rendre à Alger alors que le torchon brûle depuis l'été dernier et l'annonce du soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, mais aussi après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Retour en France avec cet objectif, 30 milliards d'euros d'économie, un effort historique demandé aujourd'hui par Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, au lendemain de la déclaration de politique générale de François Bayrou, le Premier ministre, qui a fait deux concessions aujourd'hui au Parti socialiste pour tenter d'éviter la censure. Il renonce à la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale et promet de soumettre au Parlement un accord, même partiel, des partenaires sociaux sur l'explosive réforme des retraites qui fixe l'âge de départ à 64 ans. Après le conclave de 3 mois sur la question, Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT, deuxième syndicat français.
Il faut faire des économies, bon, enfin des économies d'abord sur les plus pauvres, et en matière de retraite, ça veut dire que au final, c'est une négociation qui empêche de revenir sur la loi. On va tout essayer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il n'y a aucune chance que le patronat change d'avis, au mieux, on va négocier des miettes, c'est-à-dire revoir un petit peu les conditions de départ pour les métiers les plus pénibles, peut-être un petit peu améliorer les retraites des femmes, mais certainement pas revenir sur le fait principal qui est le recul de l'âge de 62 à 64 ans en quelques années. Et ça, c'est le point que demandent les Françaises et les Français de façon très majoritaire. Ils l'ont prouvé en manifestant en 2023 et en faisant grève et ils continuent à le dire dans tous les sondages d'opinion.
Des propos recueillis par Justine Fontaine. Et puis à un mois de la cérémonie des BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma, ça y est, on connaît la liste des nommés, elle a été révélée aujourd'hui. Primée à Cannes, 4 fois récompensée aux Golden Globes, Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard, est nommée dans 11 catégories, mais c'est Conclave de l'Allemand Edward Berger qui cumule le plus de nominations, 12. La cérémonie des BAFTA aura lieu le 16 février à Londres, 15 jours avant celle des Oscars. Il est 21h10 à Paris, 20h10 en temps universel. On se retrouve dans une heure pour un prochain journal.